Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut les amis, c'est Sofiane. Alors aujourd'hui un épisode avec Seva, qui est un ami stand-upper très doué. Voilà, on a joué ensemble au Paname et on a pas mal discuté. J'ai vu que j'avais plein de points communs avec lui. J'ai été vraiment ravi de faire sa connaissance et d'enregistrer ses anecdotes dans le podcast. Alors je vous laisse avec son épisode. Comme d'habitude, merci de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, partout où il est possible de le faire. Et je vous dis à très bientôt les amis. Bis à tous, même à toi là-bas.
Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Sévac. Salut Sévac, comment tu vas ?
Salut, ça va et toi ? Salut tout le monde à tes 20 millions d'auditeurs.
Eh bien écoute, salut de la part des 20 millions d'auditeurs. Hein. J'espère qu'on en a un peu plus quand même, je te cache pas. Et donc tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter dans le podcast ?
Ouais, j'en ai une qui m'est arrivée il n'y a pas très longtemps. J'ai un de mes meilleurs amis qui habite à Dunkerque, qui est responsable d'événementiel dans un camping et qui m'a dit « Tiens, bah, ça serait cool, toi t'es humoriste, moi je suis responsable d'événementiel. » On va fusionner nos forces et tu vas venir jouer chez moi. Je me dis, jouer dans un camping, ouais, c'est pas bon, pourquoi pas, c'est pas grave.
Mais c'est du plein air.
Ouais, c'est pas du plein air. Donc il m'explique tout, machin, viens et tout, bon, j'y vais. Je passe par l'île, je prends un de mes meilleurs potes et on y va. Je prends sa copine, je prends la mienne, on y va. On va pour Dunkerque. Déjà, on va à Dunkerque, plus tu montes, plus le paysage s'alourdit. Tu vois, il fait plus, il fait gris. Mais...
Est-ce que c'était comme dans le film Bienvenue chez les Ch'tis?
Non, parce qu'il a plu tout le long, même à Paris, il a plu. Donc on arrive là-bas, un énorme camping, et puis j'arrive devant la guitoune de la personne qui doit ouvrir, et le mec me dit « je vous connais pas ». Donc je lui dis « bah je suis humoriste, je dois venir jouer, j'ai vu avec mon pote et tout », et il me dit « non, je sais pas ». Donc j'appelle mon pote qui vient, machin. Et en fait, en passant, tu as la guitoune, et juste à côté, tu as un espèce de muret, où lui, il est obligé de rentrer, et il y a mon affiche en fait sur ce muret. Donc ça veut dire que le mec me voit en train de rentrer, mais ne m'a pas reconnu. Bon, c'est pas grave, le mec vient me chercher.
C'est là que tu vois que tu as cartonné dans ta carrière.
Ouais, c'est ça.
C'est là que tu vois où t'en es.
C'est que tu vois Gad Elmaleh en vrai, t'as jamais vu sa tête sur les affiches, tu dis c'est Gad Elmaleh.
C'est bon.
Tu vois ses vagues sur les affiches, tu le vois en vrai, tu dis quand même. Il y a un doute.
Ça remet les pieds sur terre.
Ouais, ouais, non, mais c'est. J'en apprends tous les jours et je reste humble tous les jours grâce à ce genre de personnes.
Ah, ça.
Et donc, on rentre dans le camping, c'est vraiment.
Il te laisse passer quand même,
ça. Il me laisse passer, tout le monde arrive, vous inquiétez pas, c'est l'humoriste, machin. Bon, il me laisse passer tant bien que mal, on y va, on rentre, c'est un énorme camping. Et puis, il y a un petit restaurant. Et mon pote me donne rendez-vous là-bas, on y va. Et je vois le petit restaurant qui doit faire quoi ? Une petite centaine de mètres carrés,
ouais.
Avec des tables, des chaises, partout. Vraiment un restaurant. Et il y a une petite scène qui n'est pas plus grande qu'une table pour deux personnes. Et il me dit, tu vas jouer là. Je lui dis, ok, c'est pas grave. Ça fait deux fois, c'est pas grave. Ça commence à faire beaucoup, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ?
Bon, t'avais fait la route jusqu'à Dunkerque.
Ouais, maintenant j'étais
tu
là.
Tu vas pas repartir, voilà.
Ouais, voilà, ça. Je suis là. Je me dis, bon, allez, on y va. Et je lui dis, chose importante, parce que je vois mon affiche un peu partout. Je lui dis, est-ce que les gens savent que je suis là, que je joue, est-ce que les gens viennent pour moi ?
Ah, c'est important, ça.
Ouais, parce que...
S'ils viennent pour manger, c'est...
Ah oui, bah, tu vas le voir, c'est pour ça que ça s'appelle une galère après.
On est d'accord.
Et il me dit, oui, t'inquiète pas, les gens savent que t'es là, on a mis des affiches partout, et ils viennent pour toi. Je lui dis, ok, on arrive, on mange avant, et petit à petit, la salle se remplit. Mais quand tu viens pour un humoriste, et que tu vois le mec en question, devant toi, en train de bouffer, t'as les spectateurs qui commencent à te regarder un petit peu, des petits sourires, des bonjours, des machins, c'est vous l'humoriste ? Rien. Calme plat. Donc, dis, bon, ça commence mal, mais c'est moi, j'ai un mauvais a priori. Je monte sur scène et je commence. Et là, tout de suite, je vois qu'ils ne sont pas venus pour moi. Ils sont venus pour manger.
Oh là,
t'as 120 personnes dans la salle qui viennent pour manger et qu'il y a un connard qui essaye de faire des blagues. Et j'ai ma copine qui est en régie, qui est là et qui est encore plus dépitée que moi. Bon, je joue. Et en fait, voilà ce qui se passe, c'est que personne ne t'écoute. Les gens parlent entre eux. Et à un moment donné, ça commence à taper sur les tables et machin et ça crie. Et moi, je veux faire de l'impro. Parce que je pensais que j'étais fort en impro jusqu'à ce jour-là. Et je dis au mec, je lui dis, pourquoi vous tapez sur la table ? Et le mec, il y en a un qui me répond, chef de groupe, il me dit, pour que tu fermes ta gueule, parce qu'on veut manger tranquille.
Ouh là 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 là.
Donc c'est un peu ça, personne m'écoute. Alors sur une salle de 120 personnes, t'as 4 personnes qui m'écoutent. Et ces 4 personnes, je me dis, je vais m'accrocher pour eux. parce qu'ils sont là, ils m'écoutent, ils me regardent. Et sur les quatre personnes, il y a un mec qui se lève. Il passe sur le côté, parce que c'était à côté de la porte de sortie. Mmh. Il m'arrête dans mon spectacle, il me dit « Oh, viens voir !» Je lui dis « Attends,
à vos ordres, monsieur,
oui,
à
attends,
vos
deux secondes, au moins je finis ma blague, et après je viens de voir. » Il me dit « Non, viens voir !» Donc je le regarde, j'arrête le spectacle incomplet. De toute façon, il y a trois personnes qui m'écoutent, on s'en fout. Les gens, ils sont contents, ils applaudissent parce que j'ai fermé ma gueule.
Oh là 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 là.
Il me dit « Les gens, ils te respectent pas. Ils t'écoutent pas, ils te respectent pas. »
Comme quand tu m'as appelé, tu me dis ou
Il me dit « Franchement, moi, ça me dégoûte, je me casse. » Et il s'en va. Et du coup, moi, je suis là, un peu décontenancé. Et je me dis « Bon, j'avais une personne qui m'écoutait qui s'est barrée. Il en reste trois. Je vais jouer pour les trois. Je vais me raccrocher à ça. »
Et j'avoue que son comportement, là, ça m'interpelle. Le mec, il te dit « Les gens te manquent de respect. » Je ne peux plus supporter ça, mais je me casse.
Ouais.
C'est pas logique. C'est comme si tu vas chez un mec gentil qui s'est fait cambrioler et tu dis ah les enfoirés, ils t'ont volé plein de trucs. Eh ben tu sais quoi, je prends le téléphone.
Moi. Voilà.
C'est pas logique. Tu viens de rajouter de l'irrespect au-delà de l'irrespect de base. Tu vois, enfin.
Hey, humoriste, viens voir ici.
Franchement, foutage de gueule quoi. Yeah. C'est pas logique du tout de se barrer. Ou alors non, il aurait dû, tu sais, il aurait dû parler aux gens dans la salle, leur dire s'il vous plaît, il y a un humoriste. Le mec il est là, il a fait de la route. Enfin, écoutez-le s'il vous plaît.
Ouais, oh. Mais je crois que en fait, c'était plus facile de me parler à moi, de me faire arrêter tout et me dire bah allez, je me casse, salut, bonne soirée. Et il s'en va. Et moi, à ce moment-là, je cherche du soutien auprès de mon pote. Je le vois pas dans la salle et d'un coup, je tourne la tête, il est en train de boire des coups avec des potes à lui, avec des clients parce que il fait de la fidélisation, tu vois. Donc moi, je suis en train de jouer, je suis en galère, je le regarde, je vois il boit des coups, lui aussi il parle avec des. Je fais oh, c'est pas possible. Je regarde mon autre pote qui est là. Et lui, je vois, sa mine est complètement décontenancée, sa copine, elle est là, tout le monde est là, on
il
est
souffre
défrité.
Pour toi, quoi.
Ouais, il souffre pour moi et il me voit souffrir, en fait.
Mais est-ce qu'ils font partie, non, ils font pas partie des trois personnes dont tu parles.
Non, non, eux, c'est en plus, parce que eux, c'est du bonus, je les ai ramenés avec moi.
Voilà, ouais.
Ils ont pas trop le choix d'écouter, eux, en fait.
Et les trois autres, du coup, comment ils sont?
Les trois autres, c'est un père avec ses enfants, mais un père tout seul, et une dame qui est là avec peut-être son mari. Donc c'est vraiment des gens très sympas qui sourient et qui sont là, mais ils sourient mais pas parce que c'est drôle, ils sourient parce que
te soutenir.
Ouais, ah c'est pas facile. Allez, je te donne du sourire, tiens. Allez, continue. Et puis bon, moi j'ai fait les comme on fait, tu sais, on fait les balances avant, le micro, les machins et tout.
Mm-hmm.
Et puis d'un coup, je sais pas ce qui se passe, mais vraiment c'est la totale. L'ingé son qui monte sur la scène, donc la scène plus petite qu'une table quoi, de deux personnes, ouais. Qui s'allonge derrière moi et qui me dit. T'inquiète pas, je suis en train de bidouiller les micros. Alors, je suis en train de jouer. J'essaye de faire des blagues avec des gens qui crient, qui m'insultent. Un autre qui me dit, arrête deux secondes, je me casse. Trois personnes qui me regardent, qui me sourient.
Mon pote qui t'a abandonné.
Mon pote qui m'a abandonné. Mes deux autres potes qui sont là, on dirait qu'ils sont à l'enterrement. Et un mec allongé derrière moi en train de bidouiller des fils.
Si ça s'est pas terminé en standing ovation, je comprends rien.
Ouais, bah, t'as rien compris. Hein.
Donc, oh, sérieux, quel guet-apens en fait.
C'est... Mais c'est ça, c'est que je me dis, bon, déjà, jouer en camping, c'est pas ouf. Bon, on peut pas tout généraliser, mais c'est pas ouf, mais bon, c'est mon pote, on va y aller.
Ouais, ouais.
Je lui fais confiance. On a travaillé au club ensemble, donc je sais que niveau organisation, c'est carré normalement.
Et il connaît ton style aussi.
Il connaît mon style, ouais.
Donc normalement, il se dit, mes clients vont apprécier.
Voilà, c'est ça.
Et tu vois, quand tu m'as dit camping, moi je pensais que tu parlais d'un plein air, parce que le plein air, c'est l'horreur.
Oui.
Et en fait, bah, je me rends compte que non, c'était même pas un plein air, mais c'était quand même l'horreur, quoi.
Ouais, ouais, c'est que les gens, en fait, à partir du moment où les gens, ils viennent pas pour toi.
Ah, ça, c'est.
C'est mort. Ça...
Mais pourquoi est-ce qu'il a pensé que tout le monde savait pour toi
Bah, parce qu'il a mis des affiches partout, en fait.
Mais il y a personne qui est venu le voir lui dire ah ben on va s'inscrire pour
non non t'es... c'est que en fait t'as une salle t'as deux salles en fait t'as une salle et dans le restaurant et dans le prolongement de cette salle il y a une salle de jeu
ouais
c'est les deux seules salles qu'il y a et moi je me change dans la salle de jeu en fait je me dis bon il y a que deux salles mais bon les gens viennent pour moi donc ça va en fait les gens viennent pas pour moi ils ont vu deux affiches ils ont dit ah oh, c'est cool il y a un humoriste mais on est pas là pour ça et on s'en va on... bon la soirée se termine on s'en va il y a pas un mot sur le trajet du retour où mon pote qui me charrie un petit peu et quelques temps après il m'envoie mon cachet c'était 350 euros je crois un truc comme ça
ouais.
Et maintenant je sais que ma dignité vaut 350 euros voilà
c'est déjà pas mal
ouais,
ce qui est déjà pas mal. Frérot j'ai déjà vendu la mienne pour beaucoup moins. Je me suis retrouvé à jouer dans des guet-apens et je suis reparti avec 40 balles ou moins hein,
ah ouais, mais
waouh. Ah là 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 là, mon Dieu, qu'est-ce que c'est dur ça. Là, là vraiment, t'as eu la totale quoi.
Ouais, c'est tout est arrivé en un soir en fait. Et heureusement que je commence pas avec ça parce que je me serais dit c'est pas la peine de continuer quoi.
Bah c'est ça, c'est ça. Et t'as roulé sur combien de chats sur la route parce que je pense que c'est une histoire. De... T'as dû faire un truc qui allait pas et t'as payé ce soir-là quoi.
Ouais, je crois que j'ai rencontré 16 chats noirs un vendredi 13, un machin. Je suis passé sous 4 échelles, tout ce que tu veux.
Oh là 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 là, mais quelle histoire. C'est dommage parce que à la base ça partait d'une bonne intention.
Oui.
ton pote qui te fait venir, qui te rassure sur le fait que les gens sont venus pour toi, et moi, j'aurais joué aussi, et derrière, rien ne se passe comme prévu. Et surtout, pas de bol, quoi. 120 personnes, et t'en as que 4 avec toi.
Oui, j'en ai que 4, et à la fin...
Et à la fin, t'en as plus que 3.
Et alors, ce qui est assez incroyable, c'est qu'à la fin, avant de partir, on débriefe avec mon pote, il me dit « c'est génial, les gens, ils ont kiffé ».
Mais oui, bien sûr, voilà. Mais évidemment. Fallait qu'il demande au mec qui tapait sur la table,
oui,
là.
Oui. Il me dit « ouais, oh. ». Et puis il me dit, pour cet été, donc l'été qui arrive là, professeur, il me dit on va faire tourner les campings parce que j'aurai 10 sites dans le nord de la France. Tu viendras faire 10 sites. Je dis oui.
Oui, bien sûr.
Je viendrai.
Oui, bien sûr.
Il n'y a pas de souci.
Oh là 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 là. Bah, c'est dommage. Hein. Les campings, moi, je n'ai jamais fait, mais c'est vrai que c'est intéressant en fait parce que c'est souvent des chaînes de campings.
Oui.
Donc c'est intéressant parce que tu peux, genre, faire un spectacle dans chaque camping et tout. Tu vas te faire des cachets de ouf. Si tu veux être intermittent et tout, ça peut être très intéressant. Mais j'avoue que c'est tellement galère.
Bah, tu fais un choix. Après. Bon, j'espère vraiment que tous les campings ne sont pas comme ça, mais vraiment, il faut un endroit. Après, je lui ai dit, il faut vraiment un endroit où les gens savent que je joue là et ils viennent là pour moi et pas ils viennent par défaut et qu'ils m'écoutent s'ils ont envie de m'écouter.
Bah, c'est le problème du restaurant, en fait. Peut-être qu'il faut le faire dans une salle neutre.
Oui, c'est ça.
Voilà. Si les gens viennent dans la salle neutre, ils savent qu'ils sont là pour toi. Oui. Alors que dans un resto, il y a de grandes chances qu'ils viennent pour grailler, quoi.
Ouais, c'est ça. Ils ne viennent pas pour toi du tout et tu les emmerdes et puis toi, tu t'emmerdes et puis il n'y a rien de bon qui ressort, quoi.
Ben oui. Et donc, il y a eu des spectateurs qui sont venus te parler à la fin ou pas ?
Non, je crois qu'à la fin, tout le monde est parti de son côté, tout le monde était dégoûté. À part un mec qui m'a parlé en plein milieu pour me dire « c'est bien, mais les gens te manquent de respect et moi je me casse », il n'y en a pas un seul qui m'a adressé un mot.
Oh là 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 là. Oh, quel guet-apens. Franchement, frérot, je compatis. Je compatis totalement. Et donc, tu avais une autre anecdote à nous raconter ?
Ouais, j'ai une petite anecdote. Là, c'est un peu plus mignon, si tu veux. Je vais en Dordogne. Moi, je suis de Dordogne, enfin, j'ai vécu un petit peu là-bas. Et il m'appelle, la municipalité, me dit, viens jouer ton spectacle ici. On loue le cinéma, tout se passe bien, c'est pas un camping, t'inquiète pas, c'est bon. Et il me dit, est-ce qu'on a dans le lycée où t'as été, on a une option de théâtre. Est-ce que tu veux venir faire une intervention à
un petit
théâtre ? Je dis, ouais, carrément.
Masterclass, quoi.
Ouais, voilà, donc je viens, j'y vais dans la salle, des gens tout à fait raisonnables. Ils mangeaient pas, ils tapaient pas sur les tables, donc tout va bien.
C'est déjà bien. C'est une bonne base.
Et puis ils me disent voilà, ils font option théâtre. Et toi, t'as fait une école de théâtre. Est-ce que tu peux voir avec eux un petit peu comment ça se passe, machin et tout. Donc on pose des questions. Comment tu fais pour interpréter un rôle? Je dis voilà, moi le théâtre, interpréter un rôle, en tout cas, je vois ça comme les jeux de mime qu'on faisait quand on était petit. C'est-à-dire que je prends un mec, je lui dis joue un chat. Le mec va jouer un chat. Toi déjà, tu vas savoir que c'est un chat parce que tu prends le mec, tu lui dis je prends un ado, je lui dis voilà joue un chat. Comment tu joueras un chat? Alors il m'explique comment il jouera un chat. Je lui dis voilà pourquoi tu le confonds pas avec un chien? Il me dit bah parce qu'un chat c'est typique machin c'est comme ça et un chien c'est un peu moins relâché, un peu plus foufou qu'un chat qui a une démarche féline, tu sais qui bah bref on connaît tous. Je lui dis voilà pour moi le théâtre c'est ça. C'est avant d'être crédible sur le verbal, il faut l'être sur le paraverbal et j'explique ça. Je lui dis voilà, c'est comment tu joues un curé par rapport à un gourou de secte, sans accessoires, sans rien. Bah le curé fait des gestes amples, ouverts, machin. Il prêche la bonne parole, alors que le gourou de secte c'est plus des gestes brusques, machin. J'explique tout ça et je leur dis voilà, vous jouez devant quelqu'un. Si vous voulez faire un rôle, vous faites des mimes devant quelqu'un. Et si la personne te dit ah là tu veux jouer ça et que c'est vraiment ça, t'as tout gagné déjà. T'as déjà 90% du taf qui est fait.
D'accord.
Donc j'explique tout ça aux enfants que moi je vois le théâtre comme un jeu de mime que quand on était petit. Et ils me disent ah, comment tu vois l'humour. Alors j'explique un petit peu moi comment je vois l'humour. Je dis voilà, moi je vois l'humour comme une partie de foot. C'est-à-dire que moi je suis l'entraîneur, j'ai une idée, je commence par le gardien. Ah vous avez, je sais pas si vous avez remarqué le McDo qui passe à la balle à l'arrière droit. Ah en fait le McDo, bon pour ceux qui connaissent pas, c'est qui lui passe au milieu défensif.
Chacun son rôle.
Voilà, chacun son rôle. Le milieu défensif qui est un petit peu plus appuyé, qui a passé à l'ailier. L'ailier qui va mettre au buteur et le buteur qui a marqué.
Voilà, et le but, du coup, c'est la punchline. Quoi.
Voilà, le but, c'est l'eau.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et t'as des gens, par exemple, comme Roman Frayssinet, lui qui prend le gardien, qui fait la passe à l'arrière, qui fait la passe au milieu, qui fait la passe à l'ailier. L'ailier rentre dans la surface, donc t'as des petits frissons, les gens rigolent, il revient, il repasse, tout ce que tu veux, et à la fin, bah, il y a le but, quoi. Et je leur explique que voilà, moi, je vois l'humour comme ça, comme du football. Et que si jamais il y a un truc qui va pas dans l'enchaînement, bah, au lieu de passer à droite, je vais passer à gauche. Ou au lieu de passer par le milieu, je vais passer par le milieu offensif, tu vois. Et puis t'as des gens, je sais pas moi, comme Thomas Ndjijol, qui prend le gardien, qui tire devant le buteur et bute. Voilà, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. D'accord. Mais c'est efficace, tant qu'il y a but, c'est efficace.
Ah, c'est sûr, c'est sûr. Moi, je te cache pas que j'ai fini pas mal de fois en hors-jeu. Enfin, bon, c'est autre chose, hein.
Mais voilà, pour moi, c'est.
Mais ce belle, que... belle analogie, ouais.
Et il y a un mec qui me regarde, il me dit, oh, ici, on n'aime pas le foot, c'est le rugby. Et tout ça, en fait, je me dis, mais ça marche aussi, en fait. Et moi, je connais pas les règles du rugby. Donc, je lui dis, t'as le pilier qui fait la passe au talonneur. Non, le pilier fait pas la passe au talonneur.
T'étais tombé sur monsieur premier degré.
Ouais, c'est ça. C'est que le mec, en fait, il a bugué à partir du moment où j'ai parlé de foot.
Ça y est.
Il a rien entendu.
Dans sa tête.
Il s'est dit, ouais, c'est le parigo, là, il parle de foot. Alors que nous, c'est le rugby ici.
Il a fait off sur son cerveau.
Et moi, ça m'a décontenancé parce que je me dis, mais oui, en fait. Et je lui dis, ouais, et tout le monde rigole. Et je lui dis, bah voilà, c'est ça la punchline, l'art de la punchline, l'art du rire. C'est de mettre un truc là, on n'attend pas. Et lui, il est très drôle. Parce qu'il a joué le truc à fond et il a fait rigoler tout le monde, quoi. Mmh. Donc lui, pareil, il a pris le ballon, gardien, tac, loin devant, but, terminé.
Ouais, ouais.
C'était assez incroyable, quoi.
Ben, tomber sur des gens comme ça, tu peux tomber dessus dans le public, hein. Des fois, tu balances une info et tu sais, c'est pas une info grave ou quoi, mais il y en a qui le prennent au premier degré et qui te lâcheront pas tant que t'as pas corrigé l'histoire, quoi.
Hier, j'ai été au Panama.
Ouais.
Je teste une nouvelle blague où j'explique que avec ma copine, c'est fini parce qu'elle veut voyager, elle veut visiter la Grèce. Et moi, je lui dis, en Grèce, il n'y a que des ruines. Donc, qu'est-ce que tu vas y foutre en Grèce? Elle me dit, non, moi, j'aime bien les ruines. Et je lui réponds, bah, si tu aimes bien les ruines, demain, on ira déjeuner chez ta mère. Et tu as une dame qui me regarde comme ça. Et puis, elle me dit, faut pas parler comme ça aux gens, hein, c'est pas ça. Hein, ça c'est pas vrai, faut pas lui dire ça. C'est pour ça qu'elle vous a quitté.
Mais
premier degré,
c'est tellement
drôle, en fait.
Mais c'est drôle, en fait, parce que c'est mignon.
Ouais.
Là encore, ça va, c'était pas méchant. Mais elle a pas un fils qui habite en Dordogne et qui kiffe le rugby des fois, non? Non, mais sérieux, quoi. Ah, les gens, c'est dommage parce que t'as envie de leur dire. Vous savez que là, je suis sur scène. Vous m'avez pas croisé dans la rue, je veux dire, tu vois, je suis monté sur scène pour interpréter quelque chose. Le stand-up, c'est la sincérité, c'est important. Mais second degré, les amis, second degré. Quand je dis j'ai quitté ma copine parce que, je sais pas moi, parce qu'elle sentait mauvais, franchement, il y a très peu de chances que ce soit vrai.
Ouais,
ce que je veux dire.
Bien sûr. Mais
les gens premier degré, moi j'estime que tout le monde a le droit à l'humour, mais les gens premier degré, c'est pas une bonne idée qu'ils aillent dans les comédie clubs où eux, faut qu'ils regardent des DVD. Tu vois, c'est vraiment, c'est mieux. Parce que devant la télé, ils vont dire, eh ben non, Franck Dubosc, c'est pas ça, tu sais, quand il pilotait l'avion, là, dans son sketch, là. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça se pilote, un avion, parce qu'il faut ci, il faut ça. D'accord, ok, fais-le devant ton DVD. Mais dans une vraie salle, on veut des gens second degré.
C'est incroyable, parce que tu peux dire à cette dame-là, t'es Superman, elle va dire, waouh. Mais c'est rigolo, Voilà, j'ai des anecdotes un petit peu comme ça. J'ai travaillé au Club Med.
Ouais.
Et moi, j'ai des bons souvenirs là-bas parce que c'est là-bas où j'ai commencé sur scène, en fait.
C'est une très bonne école, apparemment.
Ouais, c'est une super école, mais tu fais beaucoup de spectacles de danse. Donc, au départ, parce que le Club Med se veut international. Et qu'est-ce qui est international? La danse.
Ouais, le muet, quoi.
Voilà. Et moi, j'ai commencé le spectacle de danse tout au fond parce que je dansais pas. Et petit à petit, je suis arrivé devant et j'ai pris goût et j'ai kiffé. C'est un exercice que j'aime bien, la scène. Parce que ça procure des trucs et c'est incroyable. Et les gens en face de toi, qui peuvent être 2000 ou qui peuvent être 4, c'est assez incroyable, quoi.
Le Club Med, en fait, je pense que ça t'a donné goût un petit peu. Ça t'a mis le pied à l'étrier pour la scène et puis ça t'a donné goût à ce que les gens t'écoutent et te regardent et tout. Et t'as commencé à faire tes propres sketchs là-bas ou pas?
Non, en fait, on fait ce qu'on appelle des cafés-théâtres. C'est-à-dire que t'as une heure de gens qui viennent, des francophones, qui viennent dans une salle pour écouter des blagues qui sont faites et refaites et refaites au Club Med depuis des années.
Des blagues d'Internet, quoi.
Ouais, qui D'accord. sont faites et refaites depuis des années, des années, des années. Et ils viennent pour ça. Et moi, je me suis toujours fixé des objectifs dans la vie à atteindre assez facilement. Je suis arrivé au Club Med, j'ai dit, tiens, je vais monter sur scène. Une fois monté sur scène, j'avais coché le premier palier. Je me suis dit, tiens, je vais faire le café-théâtre. Un jour, je le ferai. Mais en fait, c'est un peu biaisé parce que si tu veux, le café-théâtre, ça te donne une telle exposition par rapport aux gens qu'ils prennent que les gens importants, le chef de village, l'adjoint du chef de village, les responsables de service, ils sont 5. Et toi, si tu as un peu de talent et que tu dis, ah, je veux faire, non, si le chef de village il est malade, tu prendras sa place. C'est pas, comme ça, c'est pas autrement.
On te met des bâtons dans les roues, quoi.
Voilà. Mais c'est comme ça. Si tu veux, c'est une hiérarchisation des trucs. Les mecs sont pas forcément drôles, mais comme c'est des blagues sorties du four et qui marchent à chaque fois, bah, c'est drôle, quoi.
Bah oui.
Et un jour, le chef de village était malade, j'ai pris sa place, et voilà, et c'est comme ça, petit à petit, que j'ai pris goût et que j'ai continué. Et j'ai fait de belles rencontres.
C'était quoi le nom du poison que t'as mis dans son café, rappelle-moi?
C'était du cyanure. Là, il n'est pas tombé comme malade, du coup, mais.
Et on pense à sa famille, hein, et voilà. Ils vont enfin découvrir la vérité dans ce podcast.
J'espère qu'ils écoutent pas, j'espère qu'ils font pas partie des 20 millions à écouter. Parce que...
Écoute, ouais, mais après, s'ils font partie des gens premier degré, ils vont dire punaise, Superman a drogué mon père, ouais, tu vois. C'est, voilà.
Pendant qu'on tapait sur les tables, on disait de fermer sa gueule, quoi.
On embrasse quand même la team premier degré, mais franchement, mettez de l'eau dans votre vin, les copains. On est là pour rigoler. On vient vous donner quelque chose. Nous, notre but, c'est le rire. Donc, si on estime qu'une situation, en l'extrapolant un peu, va vous faire marrer, on va le faire. Mais arrêtez de tout prendre au premier degré, mon Dieu, mon Dieu.
Mais c'est pas le pire, parce que là, elle prend au premier degré un truc un peu sympa, tu vois, mais c'est vraiment les blagues. Sur la communauté où les blagues un peu graves, quand tu les prends au premier degré, oui. C'est dangereux.
Ah bah là oui, bien sûr. C'est là, ça peut finir sur de la violence.
Ouais, ouais, là c'est dangereux.
Mais en l'occurrence, là, je trouve que c'était mignon avec cette dame. Et d'ailleurs, quelle a été la réaction du public à ce moment-là?
Bah en fait, le public a rigolé.
Bah oui.
Et ce qui est assez incroyable, c'est que tu viens en Paname parce que on va pas lancer des fleurs, parce que t'as un petit niveau, mm-hmm. et que les gens dans la salle sont plus drôles que toi, et bah ça te fait redescendre, quoi.
Mais là c'est trop mignon parce que c'est de l'humour involontaire, tu vois.
Oui, je sentais dans les yeux de la dame me dit. Tu sais, me donner un conseil.
Vraie, ouais, une vraie candeur, mais en fait.
C'est pour ça qu'elle t'a largué. On ne part pas comme ça, c'est pour ça. Là, c'est fait.
Ah, c'est marrant, ça. Quand les gens prennent tellement tout au premier degré qu'ils veulent juste t'aider, en fait. Là, c'était même pas pour te dire t'es méchant.
Ouais.
C'est pour te dire, si tu veux que ça marche mieux la prochaine fois, ne lui parle pas comme ça.
C'est exactement ça. Bon, c'est rigolo, c'est rigolo.
Ah oui, ça va. Bah, franchement, ça s'est bien fini. C'est pour ça, quand je t'ai demandé, je me doutais que le public allait rire ou que toi, t'allais rebondir dessus, tu vois. Et ça fait plaisir de voir que ça s'est quand même bien passé, quoi.
Ouais, ouais, non, c'est important. Quand c'est des petits trucs comme ça insignifiants, ça se passe bien et y a pas de problème. Mais je te dis, quand c'est de la communauté ou des trucs un peu plus graves et que les gens prennent le premier degré. Mmh.
T'as eu ça déjà?
Non, parce que moi, je fais pas d'humour comme ça.
D'accord.
Moi, je suis là pour divertir les gens. Moi, je suis pas là pour les faire réfléchir. Je respecte tous les gens comme Jérémy Ferrari, par exemple, qui viennent sur scène, qui sont drôles et qui font réfléchir. Mais moi, déjà, je sais pas réfléchir, donc je vais pas réfléchir les gens. Moi, je suis là pour les faire
chacun
rire.
Chacun ses capacités, on est d'accord.
Je suis là pour les faire rire, je suis là pour avoir des émotions. Pour... Si demain, j'ai envie de faire une blague ou qu'il y ait du dégoût, eh ben, je vais faire la blague et derrière, je vais entendre un « Ah !» Si je veux qu'ils rigolent, je veux qu'ils rigolent. Mais je suis pas là pour les faire réfléchir, je suis là pour les faire oublier leur journée un peu stressante, je suis là pour procurer du divertissement.
Mais écoute, je pense que c'est un noble but et tu y arrives, hein.
On essaie, ouais.
Bah, écoute, hein, c'est très bien, hein, franchement, moi je suis de tout cœur avec toi, frérot, hein. C'est une belle chose, en fait, quand les gens arrivent dans ta salle et que pendant, je sais pas combien de temps, tu vois, mais on va dire un spectacle classique, on va dire une heure et quart, t'arrives à les faire sortir de leur univers, tu vois. Et après seulement, tu sais, enfin, ils reviennent dans leur vie quotidienne et tout. Mais pendant 1h15, tu leur as offert une espèce de bouffée d'oxygène, quoi. Donc, ça fait plaisir. Moi, je sais que il y a pas mieux que ça quand les gens viennent te voir à la fin du spectacle et te disent vraiment, vous m'avez permis de m'évader pendant 1 heure et tout.
Ouais, ouais, non, c'est important. Aujourd'hui, il faut rigoler de tout. Il faut pouvoir prendre les gens et les faire rire et leur faire oublier les quotidiens qui est dur, surtout en ce moment. Là, on n'est pas loin de la Troisième Guerre mondiale, on n'est pas loin de l'apocalypse. Donc, il faut que les gens rient.
C'est sûr.
J'ai été élevé, moi, à Laurent Baffy, par exemple, qui disait dans la rue, les gens, ils ont envie de se marrer, ils ont envie de rigoler. Et là, on sent telle tension qu'il faut que les gens rigolent, il faut que les gens puissent oublier leur quotidien et puissent venir avec toi et rigoler. Et puis,
Ben la tension qu'il y a aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a toujours été là, mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec l'hypermédiatisation de tout, j'ai l'impression que c'est juste plus mis en avant, en fait. Mais à l'époque, déjà, je pense que les gens galéraient autant qu'aujourd'hui, au final, tu vois. Nous, on n'a pas l'impression, parce qu'on a l'impression que là, ça y est, avec l'Ukraine et tout, machin, les prix ont augmenté d'un coup, machin. Mais il y a eu plein d'histoires comme ça. Il y a eu plein d'inflation et tout. Et juste aujourd'hui, en fait, on voit les choses et on connaît l'avis de nos voisins et de nos amis et tout, parce qu'il y a les réseaux sociaux. Oui. Juste à l'époque, chacun souffrait dans son coin et personne n'en parlait. Aujourd'hui, tout est exposé, donc voilà. Mais t'as raison, on a besoin de rire, et je pense encore plus aujourd'hui, en effet. Ouais.
Mais même les racistes, avant, c'était comme ça, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc chacun allait dans son café, déblatérer ses conneries, et ça restait dans une bulle. Aujourd'hui, moi, ce que je trouve assez incroyable, c'est que les cons, ils ont plus honte. J'avais déjà entendu cette phrase quelque part, les cons, ils ont plus honte d'être cons.
Ouais, ouais.
C'est-à-dire
qu'on leur donne des tribunes, maintenant.
Sur Internet, ils mettent leurs photos, leurs photos de fachos. Et puis, sur les commentaires, ils t'expliquent que, bah non, la France, c'est pas ça. La France, c'est pas ça. La France, c'est blanc, c'est chrétien, c'est tout ce que tu veux. Et ils ont plus honte de dire des trucs comme ça.
Bah, c'est dommage. C'est des gens qui manquent d'ouverture d'esprit. Je veux dire, dans le monde d'aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut penser ça, tu vois? Le monde, maintenant, c'est tellement, tout est tellement ouvert et tout. Tu peux plus rester dans ton carcan comme ça, tu peux plus. Moi, je comprendrai jamais ces gens-là. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui prône le vivre ensemble et tout, parce qu'on n'a pas le choix.
On n'a pas le choix, ouais.
Nous, maintenant, on fait partie d'une génération, tu vois, genre, on est fils d'immigrés et tout. Toi, ce sont tes parents qui sont venus en France?
Ouais, moi, c'est mon,
c'est tes grands-parents?
Mes grands-parents. D'accord. En fait, l'histoire arménienne est similaire pratiquement à tout le monde, si tu veux. Nos arrière-grands-parents, de ma génération, nos arrière-grands-parents, sont nés en Arménie, qui était l'URSS à l'époque.
D'accord.
Ils sont venus en France, parce qu'il y avait des galères en Arménie. Ils sont venus, ils ont été un peu partout en Europe, si D'accord. tu veux. Ils sont venus en France. Mon grand-père est né en France. Mm-hmm. Et après, ils sont repartis en Arménie pour relever un petit peu le pays qui sortait du communisme, etc.
D'accord.
Et mon père est né en Arménie. Mes oncles, mes tantes, tout le monde est né en Arménie. Et quand ça s'est plus ou moins stabilisé,
ils sont revenus ici.
Ils sont repartis. Ma famille est aux États-Unis. Et mon grand-père a dit non, moi j'ai les papiers français, on va aller en France.
D'accord. Ouais, non, mais tu vois, maintenant, je veux dire, nous, notre vie, elle est en France et tout. Et puis, on aime la France, on aime nos pays d'origine. Toi, tu aimes l'Arménie, moi, j'aime le Maroc et tout, c'est comme ça. On aime nos pays, ça ne nous empêche pas d'aimer la France. C'est comme, moi, Jamel Debbouze avait sorti une belle phrase, à l'époque, je ne sais plus dans quel. Je crois que c'est dans son deuxième spectacle, dans Jamel 100% Debbouze, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Il disait, ceux qui me demandent entre la France et le Maroc, qu'est-ce que tu préfères, machin, il dit, j'ai pas envie de choisir entre la France et le Maroc, comme j'ai pas envie de choisir entre mon père et ma mère. Et c'est ça.
Ouais, c'est
totalement ça. Moi, j'aime la France profondément. C'est le pays qui m'a vu naître et c'est le pays qui me donne ma vie quotidienne, tu vois. Et j'aime le Maroc parce que c'est le pays de mes racines. J'aime les deux. Il y a pas de problème. Donc, vivons ensemble et rions ensemble, frérot.
Rions ensemble parce que c'est la seule chose qui est gratuite pour l'instant.
Gratuit. Mettez dans le chapeau,
voilà,
d'accord.
C'est ça. C'est
voilà.
Ça, dans le chapeau. Si vous voulez pas mettre, vous mettez pas, mais passez un bon moment. Ça tient pas mal.
Je plaisante, bien sûr. Hein. Évidemment, le rire en lui-même, bien sûr. Quelqu'un qui veut rire gratuitement peut rire gratuitement. Mais venez voir les spectacles. Déplacez-vous dans les salles. Mettez dans le chapeau quand on vous encourage à le faire parce que on vit grâce à ça. On vit grâce à votre générosité et puis ça permet de mettre un petit boost à l'ego quand on voit le travail qu'on met là-dedans pour écrire les blagues et qu'on en souffre et tout. Quand on voit que les gens ont été généreux dans le chapeau, on se dit ça fait plaisir, c'est exactement ce dont je rêvais, pouvoir vivre de ma passion, quoi. Voilà. Donc voilà, continuons à aller dans les salles, continuez à venir nous voir, mesdames et messieurs. Et donc, frérot, tu avais une dernière anecdote?
Oui, c'est concernant le chapeau dont tu parlais.
Uh-huh.
Tu disais mettez dans le chapeau parce que ça met de l'ego, du boost, machin. J'ai fait une de mes meilleures dates devant 4 personnes, deux couples qui étaient venus.
Ouais.
Je vais voir les gens au début, je leur dis bon voilà, on est 4, est-ce que vous voulez jouer, machin. Moi je paye la salle donc ça me dérange pas qu'ils soient là ou que j'annule, je la paye.
Mm-hmm.
Il me dit non, on veut bien, machin, donc 4 personnes, deux couples. Et à la fin, on a passé un tellement bon moment que j'ai eu 70 euros dans le chapeau.
Pour 4 personnes?
Pour 4 personnes.
Franchement, je les applaudis.
Alors là, c'était la meilleure date, que ça soit sur scène et dehors. Et quand tu sors avec 70 euros dans le chapeau pour 4 personnes, tu te dis, bah là, j'ai réussi ma mission parce qu'ils ont mis plus qu'une place d'Olympia,
bien sûr,
pratiquement.
Bien sûr, ça fait plaisir, tu vois. Bah ça, c'est des gens qui soutiennent le spectacle vivant et ça fait plaisir.
Il en faut encore.
Et il en faut des comme ça. D'ailleurs, tu me donneras leur nom.
Ouais.
Et voilà. En tout cas, merci beaucoup, Sévac.
Bah, merci à
c'était
toi d'avoir
un plaisir.
Reçu.
Bah, avec grand plaisir. Hein. Ça faisait un petit moment qu'on devait le faire et puis bah, je suis ravi d'avoir pu recueillir tes anecdotes. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux?
Alors, à Sévac-Humour, SEVAC-Humour. Sur Facebook pour les moins jeunes si t'en as.
J'en fais partie.
Voilà. Bah, moi je m'appelle Sévac, artiste officiel. Voilà.
D'accord.
Tout sobrement.
Ok.
Et puis un petit peu partout. En ce moment on partage la scène au Paname. On peut me retrouver un petit peu partout. Dès qu'il y a
d'accord.
de l'humour, dès qu'il y a du public, on est là.
Exact. Et donc tu as peut-être une chaîne YouTube ou Twitter?
Non, j'ai pas tout ça. Non, je suis un boomer. J'ai pas. J'ai du mal à me mettre sur Instagram. J'ai pas TikTok encore, mais peut-être.
D'accord.
Mais YouTube, il y a 3 abonnés, il y a mes parents.
C'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal. Mais YouTube, pour l'instant, on va mettre de côté. Concentrez-vous sur les réseaux sociaux et puis ça viendra petit à petit.
Ok, mais pas de problème. Écoute, je mettrai Facebook et Instagram. Je regarderai si t'as TikTok au moment de la sortie de l'épisode. On verra. Hein. Je mettrai le lien. En attendant, ben, merci beaucoup. Et puis, ben, pour ma part, vous me retrouvez également sur tous les réseaux sociaux. Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify et partout où il est possible de le faire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous. Même à toi là-bas.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.